Alors, on va prendre ensemble les actes et on va continuer notre passage. Donc, nous sommes en acte 9 et on va lire les versets 31 à 43. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Ce fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Jusqu'à présent, on était avec l'apôtre Paul. Donc, on a vu sa conversion, chapitre 9. On a vu ses persécutions. Et ici, Luc, donc, qui est l'auteur du livre des Actes, change de scène, de décor, et il nous emmène en Israël. Donc c'est le verset 31, où là, on est parti en Israël. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et donc l'Église a été persécutée d'abord à Jérusalem, si vous vous souvenez, et ensuite elle a commencé à se répandre donc en Israël, elle a fui la persécution de force. Hein. Et là, en se répandant en Israël, elle a connu une période où elle était en paix, il dit. Hein. Et là, vraiment, l'Église s'est consolidée, elle s'est affermie, elle s'est édifiée, elle a commencé à croître. Et ici, ce verset, finalement, c'est l'introduction de tout le passage qui suit. Et j'aimerais qu'on puisse voir ce matin comment eh bien, cette Église a-t-elle pu s'accroître, grandir. Alors, on peut trouver plusieurs manières de prendre ce texte. Et en fonction des pasteurs, des prédicateurs, vous verrez le texte qui sera abordé de différentes manières. Je suis sûr que certains pasteur, en prêchant sur ce texte, mettrait plutôt en avant la puissance de Dieu qui opère des guérisons physiques. Vous entendrez alors que Dieu peut toujours guérir, veut toujours guérir, et qu'il guérit toutes les maladies, et que si vous êtes malade, eh bien, ayez foi, levez-vous, et vous serez guéri. Je pense pas que Dieu nous a laissé ce texte pour nous dire qu'il veut nous guérir de toutes nos maladies, et qui veut ressusciter tous nos morts. Parce que si vous prenez le premier miracle de la guérison du paralytique, ben faut prendre aussi le deuxième, hein, de là une résurrection. Et si on regarde aujourd'hui les faits, ben des paralytiques qui se relèvent, Dieu guérit encore, fait des miracles, mais c'est quand même plus rare. Hein. Et si vous regardez des morts qui ressuscitent, alors là, j'en connais pas. Donc je ne pense pas que Dieu veuille nous enseigner cela aujourd'hui. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu a permis que les apôtres fassent des grands miracles, comme ici, justement pour appuyer leur témoignage, pour montrer qu'ils venaient de Dieu, qu'il fallait écouter leur message. Après, quand on arrive dans les Épîtres, on lit toutes les Épîtres, et là, on voit pas quelque chose qui nous exhorte à guérir tous nos malades et à ressusciter tous nos morts. Ça n'existe pas. Mais il y a quand même des choses que le Seigneur nous enseignait par ce passage. Et donc l'Église était en paix, elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comment s'accroissait-elle par l'assistance du Saint-Esprit ? Certaines versions disent qu'elle s'accroissait par la consolation du Saint-Esprit. C'est le terme grec qu'il y a derrière. C'est intéressant ça. Elle s'accroissait par la consolation du Saint-Esprit. C'est intéressant pourquoi ? Parce que quand on lit la suite du passage, on voit vraiment que le Saint-Esprit a opéré une consolation chez les saints. Comment ? Eh bien, en guérissant ce paralytique et puis en ressuscitant cette sœur qu'ils aimaient. Donc c'était une vraie consolation et tout ça, ça a permis à une croissance, une multiplication des saints. Et je crois que Dieu veut continuer à faire accroître, grandir son Église par des miracles, non pas forcément le miracle d'un paralytique qui se lève ou d'un mort qui ressuscite, mais je crois par la puissance qui se trouve dans des vies qui sont sanctifiées. Et j'aimerais qu'on s'attache à regarder ces deux personnes, donc Énée et Tabitha, et l'image que nous pouvons voir derrière ces deux personnes. D'abord, il s'agit d'un frère et d'une sœur. Ce n'est pas un homme qui était sur le bord du chemin et puis Pierre passe. Non, on voit que c'était un chrétien. Et puis on voit aussi que cette femme décédée, eh bien, était aussi une chrétienne. Regardez verset 32 et 33. « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva, donc là, un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. » Donc c'était un frère, il était en train de visiter les saints, et parmi les saints, eh bien, il y avait cet homme qui était encore paralysé. Verset 36, « Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. » Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Là encore, c'est clair, c'était une sœur parmi les disciples. Et je crois que derrière ces deux personnes, eh bien, on peut voir les images du miracle de vie qui sont sanctifiées par le Seigneur. Comment l'Église peut-elle s'accroître par l'assistance, par le soutien du Saint-Esprit en opérant les miracles de sanctification dans nos vies. Et on voit dans notre passage qu'il y a un travail conjoint à la fois de Pierre, un disciple, mais aussi des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire Énée et Tabitha. On va le développer un petit peu plus loin. Hein. Et j'aimerais rester sur ce sujet de la sanctification et vous parler de la sanctification ce matin. Dieu veut que nos vies soient sanctifiées. Et il y a une part qui vient, qu'on reçoit de l'extérieur, d'un serviteur, de la parole, et il y a une part qui vient de nous. Il faut un moment qu'il y ait quelque chose qui vient de nous. Et quand la sanctification s'opère, on peut dire que c'est un miracle. C'est un témoignage de quelqu'un qui est transformé par la puissance de Dieu. C'est un miracle. Et ça, c'est quelque chose qui parle, et ça parle très fort, une vie qui est sanctifiée. Regardez 2 Corinthiens. On va regarder quelques passages sur la sanctification avant de reprendre notre texte. 2 Corinthiens, chapitre 6. Et on va lire à partir du verset 17 à 7, verset 1. Donc après avoir dit de ne pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger, il dit, verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils, des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Verset 1, chapitre 7, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et dans ce verset ici, ce dernier verset, Dieu nous exhorte clairement à nous purifier de ce qui pourrait souiller notre corps et notre esprit. Posons-nous la question, est-ce qu'il y a des actions que nous pratiquons qui continuent à souiller d'abord notre corps ? Et nous sommes sales, de ces mauvaises actions qui sont dégradantes, qui sont avilissantes, qui sont honteuses pour un fils, pour une fille de Dieu. Ou bien y a-t-il encore des actions qui souillent notre esprit, nos pensées, nos raisonnements, notre logique, notre réflexion, des actions qui attristent l'esprit que Dieu a mis en nous. Dieu nous a accueillis comme un père, si nous avons cru en lui, il nous a accueillis comme un père. Il nous a ouvert les bras, il nous a serrés contre lui, il nous a introduits dans son palais, il nous a ouvert les portes du ciel. On a un libre accès maintenant au trône de la grâce, un accès qui est permanent. Et donc c'est un immense privilège pour les pécheurs que nous sommes. Alors il nous dit, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous et achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et c'est sur ce dernier verset que j'aimerais appuyer, achevons notre sanctification. Et nous devons progresser, nous sommes en chemin et il faut qu'on progresse tous dans la sanctification. La sainteté, elle doit croître dans notre vie. Au départ, on se convertit, Dieu nous fait la grâce, il nous porte, hein, et puis petit à petit, il se recule et il nous montre où nous en sommes réellement. Et là, eh bien, on voit, on est à un certain niveau avec le Seigneur dans notre marche, dans la sainteté, mais il faut viser l'achèvement de notre sanctification. Il faut viser le progrès. On ne peut pas rester dans la vie chrétienne tout le temps au même niveau. Le chrétien peut être accablé par son péché et se dire « Je m'en sortirai jamais. Jamais je vais y arriver. » Mais ça, c'est faux. C'est un mensonge de l'ennemi. Dieu veut qu'on s'en sorte. Il veut nous délivrer. Par Jésus, par l'Esprit qui est en nous, Dieu nous attire, il nous appelle, il nous presse. Il veut nous donner les moyens de nous sanctifier, d'être saints en lui. L'apôtre Pierre ailleurs dit que nous pouvons en finir avec le péché. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce verset. 1 Pierre chapitre 4, ne le prenez pas, mais nous pouvons en finir avec le péché afin de vivre. Non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Certains diraient, oui, mais ça c'est au ciel. Non, il dit, pendant le temps que nous avons à vivre encore, alors que nous sommes sur la terre. Nous pouvons en finir avec le péché. Ça ne veut pas dire que le péché n'existera plus dans notre vie, mais ça veut dire qu'on ne tombe plus sans cesse, on est libéré, on marche, on tombe parfois, mais on est dans une progression, on est en train d'achever notre sanctification. Le Seigneur veut nous délivrer. Et si on peut parler de miracles dans la vie des enfants de Dieu, il y a aussi des contre-miracles, malheureusement, dans la vie des enfants de Dieu. Et les contre-miracles, eh bien, ce sont des vies qui s'arrêtent, qui ne cherchent plus à progresser, à se sanctifier. On était en marche avec le Seigneur, on avançait, puis finalement, on s'arrête, on ralentit le pas. Et la vie continue. La vie avance, mais il n'y a plus de progrès. Plus de progrès. C'est la stagnation. Et ça peut durer longtemps. Cet homme est né, donc, à Lydde, était paralytique depuis 8 ans. Alors, il n'était probablement pas chrétien depuis 8 ans. Hein, c'était le début, le commencement de l'évangile qui se répandait. Mais bien qu'il se soit converti au Seigneur Jésus, ça n'a rien changé ici à sa maladie. Et derrière cette paralysie dont il ne guérissait pas, on peut voir une autre paralysie qui peut frapper tous les chrétiens. On peut être né de nouveau, avoir cru en Jésus-Christ, avoir cru que vraiment il est mort pour nous personnellement, donc être enfant de Dieu, et stagner, être paralysé dans sa vie chrétienne. On ne bouge plus, on n'avance plus. Et au niveau de la sanctification, spirituellement, ben, on est immobile. Et vous savez, il n'y a pas d'immobilité. C'est un petit peu comme dans les grands aéroports, il y a des tapis roulants, mais pour vous faire parcourir des kilomètres, hein, parce que l'aérogare suivant est très loin, donc c'est plat. Et c'est comme si vous preniez un de ces tapis roulants, mais à contresens. Si vous avancez avec un bon rythme, pas de problème. Vous arrivez à grappiller, vous avancez, vous progressez. Mais si vous ralentissez et vous vous arrêtez, eh bien vous reculez. C'est inévitable. Et c'est un peu ça la vie chrétienne, c'est on avance, il y a un contre-courant, il y a beaucoup de choses qui sont contre nous et il faut avancer pour progresser. Mais si on avance, on progresse. Mais si on s'arrête, eh bien on repart et on glisse et on recule. Le seul moyen de progresser, c'est d'aller plus loin, c'est d'être en mouvement, d'avoir un désir de marcher avec le Seigneur tous les jours. Paul dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il dit encore, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Un dernier verset. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, il dit, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc il faut agir, il faut faire, il faut pratiquer ce qu'on lit dans sa lecture quotidienne. Dieu nous dit quelque chose, oui Seigneur, je vais le faire, oui je vais obéir. Pratiquez-le. Par sa grâce, Dieu nous donne des exhortations, c'est en lisant notre Bible, premièrement. Normalement, premièrement, j'espère. J'espère que ce n'est pas simplement en venant le dimanche matin, mais c'est d'abord en lisant sa Bible. Ensuite, il nous donne des exhortations par des messages, par les réunions, par le temps qu'on passe avec les frères et sœurs, aussi par les partages. Simplement le fait de partager avec quelqu'un et Dieu nous exhorte. Dieu nous exhorte. Verset 34, acte 9. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et il y a une chose que nous ne, au sujet de laquelle nous ne devons pas douter, c'est que Jésus veut nous guérir de notre paralysie spirituelle. Ça, c'est clair. Jésus veut nous guérir de cette paralysie. Nous ne sommes pas appelés à stagner dans notre vie chrétienne. Dieu veut qu'on soit constamment en mouvement. Il dit, mettez en œuvre votre salut. Voilà encore l'idée de bouger. Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. C'est tout un programme. C'est tout un programme là. Faites tous vos efforts, visez ces choses. Visez ces choses. Il y a l'idée d'une progression, on doit viser plus haut, toujours plus haut, avancer. Dieu ne nous a pas donné une promesse assurée de guérison physique. Le jeune Timothée, qui avait des problèmes d'estomac, Paul ne lui impose pas les mains, on lui dit pas, mais Timothée, n'as-tu donc pas foi ? Jésus te guérit. Il lui dit, prends un peu de vin. À cause de tes fréquentes indispositions. Donc Dieu ne nous a pas donné une promesse de guérison absolue au niveau physique. Mais par contre, en ce qui concerne la sanctification, alors là, on trouve des promesses qui sont très très claires. Dieu veut qu'on progresse vraiment dans la sanctification. Et lui, il met tout en œuvre. Il agit, il veut. Dans Thessaloniciens, on lit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est clairement la volonté de Dieu pour les saints, pour leur vie de tous les jours. Paul dit d'ailleurs que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Lui, il est à l'œuvre. Qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. Mais il dit aussi, ailleurs, recherchez la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et donc, Dieu nous demande de coopérer à la sanctification, de coopérer par l'obéissance, par le désir de faire ce qu'il nous demande, en lui disant, Seigneur, secours-moi, secours-moi. C'est pourquoi quand Pierre dit à Aîné, Jésus te guérit, et vous l'avez ici, sur un point de vue spirituel, on peut le prendre comme une promesse pour notre vie personnelle, pour notre sanctification. Jésus te guérit. Oui, c'est sa promesse. Jésus te guérit. Ça veut dire, oui, il veut nous guérir de nos péchés. Oui, il veut nous guérir de nos chutes répétitives. Oui, il veut nous guérir de ce qui nous fait stagner, de ce qui nous fait reculer, tomber. En cela, l'Éternel est celui qui te guérit. Mais Pierre ne s'arrête pas à dire « Jésus te guérit ». Il ajoute « Lève-toi et arrange ton lit ». Et on voit ici la part qui est demandée aux enfants de Dieu. Il y a toujours un minimum de volonté, d'obéissance. Il faut se lever, sortir de son immobilité. C'est intéressant que Pierre dise « Arrange ton lit ». Aîné était sur son lit depuis 8 ans. Il n'y bougeait pratiquement pas. Peut-être on le prenait pour ses besoins. Mais c'est fini maintenant. Il ne va plus rester sur son lit. Il va l'arranger, il va remettre en ordre sa natte. Ça y est, il se lève maintenant. Il va vaquer une vie active. Il va bouger. Et assurément, c'est un contre-miracle pour nous, après notre conversion, de s'arrêter, de végéter, de reculer. C'est un contre-miracle. Imaginez Pierre qui dit « Jésus te guérit, lève-toi, arrange ton lit. » Et Aîné ne bouge pas. « Ah, Jésus m'a guéri, merveilleux !» Et il ne bouge pas. Il ne bouge plus. Dieu nous accorde sa puissance pour faire ce que nous ne pouvons pas faire, ce qui est hors de notre portée. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit de force, de puissance, qui peut faire ce que nous n'arrivons pas à faire. C'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse pour prendre les bonnes décisions. Mais pour que le miracle de la nouvelle naissance soit visible, il faut se lever, il faut agir, se lever, obéir au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre sa Bible. Ça veut dire, allez, je me bouge, je vais à la réunion. Allez, je vais aller visiter les frères. Je ne vais pas rester tout seul, non, je vais chercher le contact. Je vais chanter un cantique. Il faut se lever pour être vivant, il faut agir pour être vivant. Et c'est très important parce que c'est là où il y a un témoignage qui est salutaire. C'est vrai pour la guérison, c'était vrai pour la guérison physique d'Aîné, mais c'est aussi vrai pour notre guérison spirituelle. Il y a un témoignage. Comment on va gagner les personnes de l'extérieur si c'est en restant comme ça et en ne bougeant pas? Non. C'est par la sanctification, par une vie qui est sanctifiée. Verset 35, il est dit « Tous les habitants de Lydde et de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. » Et notre témoignage, c'est quelque chose de très important. Aîné avait un témoignage parce qu'il a cru que Jésus le guérissait, parce qu'il s'est levé, parce qu'il a arrangé son lit. Et la vie chrétienne, c'est pas simplement se réjouir du salut et puis toujours rester au même niveau et ne pas bouger. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de croissance, une vie d'obéissance, une vie où on avance. Et le deuxième exemple de notre texte vient l'appuyer, regardez verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. On a ici une autre chrétienne qui est l'exemple de ce que nous devons tous être. Cette servante du Seigneur était active, elle était serviable, elle était occupée à faire des bonnes œuvres. On voit un petit peu plus loin qu'elle travaillait, donc elle faisait des tuniques. Regardez verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. On peut conclure de ce verset que Dorcas était donc quelqu'un qui était très proche des veuves de l'Église. Les veuves étaient souvent les plus pauvres, elles étaient sans ressources, et il semble que Dorcas prenait un soin particulier avec ces veuves. Elle leur faisait des vêtements, probablement elle leur donnait des vêtements. Donc elle était voilà, tournée vers les autres, active pour les autres. Il est également écrit qu'elle faisait des aumônes. Donc Dorcas gardait ses biens, elle ne gardait pas ses biens pour elle-même, mais elle les partageait. Voilà, elle avait envie de donner, d'aider les autres. Probablement aussi, elle faisait des tuniques, elle les vendait, ce qui générait des revenus. Et ces revenus, elle s'en servait pour faire du bien. Elle voulait faire du bien. Et on voit ici le témoignage d'une vie qui est consacrée au Seigneur, une vie qui est offerte, une vie qui marche dans les œuvres préparées d'avance. Et elle porte bien son nom, Tabitha, ce qui signifie Dorcas, en fait c'est gazelle. Hein, quand on pense à une gazelle, là, quelqu'un qui bouge. Et elle était active, voilà, elle était en train de servir, elle bougeait pour plaire au Seigneur. C'est pourquoi quand elle tombe malade, alors là, jusqu'à même en mourir, c'est une tristesse pour toute l'église de Joppé. Les disciples n'arrivent pas à se consoler d'une telle perte. Bien sûr, nous ne sommes pas, et il ne faut pas du tout le faire comme ça, on n'est pas dans un concours de bonnes œuvres. Hein. Ce n'est pas le but. Mais qui va laisser une trace dans l'église de Jésus-Christ? On peut dire que Tabitha, elle laissait une trace. Son absence s'est tout de suite fait remarquer. Non pas parce qu'elle avait un excès de zèle charnel, mais parce qu'elle était une manifestation visible de la personne de Jésus-Christ. On voyait Jésus-Christ en Tabitha. Alors, eh bien, c'était comme le Seigneur, une partie du Seigneur qui parle. C'est ça qui... Tout le monde était dans la peine. Alors, sachant que Pierre était pas loin, à Lydie, à côté, vite, il faut qu'elle ressuscite, c'est pas possible, on peut pas la perdre. Allez, allons chercher Pierre. Alors ils envoient deux hommes. Quand Pierre arrive, cette fois c'est les veuves qui commencent à l'entourer, pleurer à grand bruit. Alors on sait qu'il y avait les pleureuses, hein, culture orientale, mais ici c'est clair que c'était pas des pleureuses. Hein. On voit que le texte est empreint de sincérité, c'était pas artificiel. C'était une vraie peine parce que cette sœur était précieuse du fait de son activité pour le Seigneur et dans le Seigneur. Parce qu'il ne suffit pas de faire des choses pour le Seigneur, il faut les faire dans le Seigneur, avec le Seigneur, en lui. Il n'était pas possible que Dorcas ne soit plus là. Ils espéraient tous qu'elle revienne de la mort. Parce que l'Église a besoin de frères et sœurs qui sont vivants pour lui. C'est la colonne vertébrale de l'Église. Et on doit tous faire partie de cette colonne vertébrale. Dorcas nous montre que les saints en Jésus-Christ ne devraient pas être comme des morts. Hein, on a une image ici. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous soyons vivants et actifs. Et j'aimerais prendre cet exemple de Dorcas pour expliquer autre chose. C'est que nous avons peut-être été autrefois vivants, actifs, mais depuis, eh bien peut-être qu'on s'est arrêté. Et on est mort. On est comme mort. Est-ce qu'on marche encore avec le Seigneur? L'apôtre Paul dit dans son épître à Timothée qu'une chrétienne peut vivre dans les plaisirs et ainsi être morte, quoiqu'en réalité vivante. Elle est vivante parce qu'elle est née de nouveau. Parce qu'elle a une vie en Jésus-Christ, il est en elle. Mais elle est morte à cause d'un choix de vie, où là, eh bien, la vie ne peut plus s'exprimer, se manifester. Morte, quoique vivante. Mais ça, c'est pas bon, ni pour la personne, ni pour l'Église. C'est une perte pour la personne, premièrement, et pour l'Église. L'Église, elle ne s'accroît pas avec des morts, elle s'accroît avec des vivants. Et elle s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit, grâce à des chrétiens qui sont vivants pour le Seigneur. Et j'aimerais dire encore que Dieu nous donne les moyens de vivre le miracle d'une nouvelle vie. Il nous a tous sauvés pour cela, pour vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais il y a une petite part qui vient de nous. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main. Il la fit lever. Ramener, imaginez ça, ramener un mort à la vie. Enfin, je parle d'un vrai mort là. Hein? Ramener un mort à la vie. Imaginez Tabitha, un corps qui est froid, qui est dur. La vie l'a quitté depuis plusieurs heures, hein? Si bien que même on l'a lavé, on a préparé sa dépouille, on l'a mis dans la chambre haute. Et Dieu opère ce miracle. Il réchauffe le corps, hein? Je ne sais pas, j'imagine. Hein? Il refluidifie le sang. Il fait battre de nouveau le cœur, hein? Il restaure le cerveau, il rend la vie. Quel miracle, hein? Même les plus grands médecins et voilà, dans le corps médical, c'est inimaginable, inimaginable. Mais pour Dieu, c'est possible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Dieu peut faire ce miracle. Et il le fait ici en s'appuyant, en l'occurrence, sur Pierre. Dieu peut agir seul. Il n'a pas besoin des hommes, il fait ce qu'il veut. Mais il a choisi de prendre ses enfants pour ramener à la vie. Et c'est vrai, pour une personne qui serait morte, dans le sens morte dans ses péchés, loin de Dieu, mais c'est aussi vrai pour un chrétien qui serait mort, quoique vivant. Que fait Pierre ? Il se met à genoux, il prie. Et puis il va lui parler. Tabitha, lève-toi ! Il va aussi lui tendre la main, l'aider à se relever. Et on peut voir ici l'image d'un chrétien qui va venir en aide à une personne qui est morte ou comme morte. Peut-être que vous en connaissez. Alors tout d'abord, ça commence par l'intercession. C'est la prière qui est à l'origine du miracle de Dieu ici. Il faut qu'on prie les uns pour les autres. Hein. Priez pour ceux qui vont bien dans le Seigneur, priez pour ceux qui vont pas bien dans le Seigneur, qui stagnent ou qui reculent. Mais il y a aussi la parole, l'exhortation. Lève-toi, Tabitha, ma sœur, lève-toi. Dieu nous demande de nous exhorter les uns les autres. Il est écrit, exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et puis même s'il faut, il y a cette main tendue. Allez! Le contact, lève-toi. Mais de même qu'aînée, Tabitha va répondre à cet appel. Elle va se lever. Et vous savez, on peut faire tout son possible, mais c'est-à-dire on peut prier, on peut exhorter, on peut tendre la main, aider, encourager. Mais si la personne ne le veut pas elle-même, ben, on ne peut rien faire de plus, hein. Il y a toujours une réponse qui vient de la personne. C'est essentiel. Tabitha va entendre, va se redresser. Elle va s'asseoir d'abord. Et puis cette main de Pierre qui va la prendre, et elle va le suivre, elle va se lever. Elle va se lever. Ça veut dire qu'elle n'avait pas encore fini de servir avec le Seigneur. Il avait encore plein d'œuvres pour elle, des œuvres bonnes. Et ça, c'est encourageant parce que si notre vie est arrêtée, si on a le sentiment « mais je ne vais jamais réussir à repartir », j'ai souvenir de ce que c'était. Ben ça, c'est faux. Vous pouvez repartir. Vous pouvez redémarrer avec le Seigneur. Si Dieu ressuscite un corps qui est froid, qui est dur, ben, il peut réchauffer votre âme. Il peut vous relever, vous redonner la vie en abondance, hein, une vie riche à son service. L'apôtre Paul dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et il donne la réponse « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Versets 41 et 42. « Il lui donna la main, la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. » Et là encore, eh bien, c'est le témoignage d'une morte revenue à la vie qui va porter beaucoup de fruits. Parfois, on se dit, il faudrait qu'il y ait un miracle pour celui, celle qu'on aime, pour qu'il croie, pour qu'il soit sauvé. Mais vous savez, le miracle, c'est peut-être celui d'une vie en marche, d'une vie sanctifiée, d'une vie qui dit non au péché, pas d'une vie de paralytique et de mort. Ça ressuscite personne, ça, hein? Ça n'amène la vie à personne. Ça ne sauve personne. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et nous sommes, nous, enfants de Dieu, le sel de la terre. Non pas qu'on l'ait en soi-même, mais Jésus-Christ en nous fait que nous sommes le sel de la terre. Et notre vie doit donner de la saveur à cette terre, à ce monde. Et notre vie a de la saveur en Jésus-Christ. Quand lui, il prend la place dans notre cœur, quand il agit, quand il se sert de nous, quand il parle au travers de nous, alors là, notre vie a de la saveur. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Et si on perd la saveur de Jésus-Christ, alors il nous reste rien, rien du tout. Vous savez ce qu'il y a après, hein ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Vous savez, on finit par nous fouler aux pieds si on n'est pas le sel de la terre, si on ne donne pas du goût. À la fin, jeté. Paul nous donne cette exhortation en Éphésiens. Il dit, vous vous souvenez de ce verset, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » C'est ici une exhortation que Dieu nous donne à tous. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on soit en mouvement. Il faut qu'on progresse, qu'on ait envie d'aller plus loin. Il faut se relever du sommeil, se relever de la paresse, se relever de la négligence. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La fin de ce verset, Christ t'éclairera, qu'est-ce que ça signifie ? On pourrait penser à première vue, Christ va me donner une meilleure compréhension de quelque chose ou je vous donne une autre version qui, à mon avis, est plus proche du texte grec. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ luira sur toi. Qu'est-ce que c'est beau ! Le Christ va luire sur ta vie, va briller sur ta vie. Si on se lève pour le Seigneur, Jésus va briller dans notre vie. Et on va être un reflet de sa personne malgré nous. C'est pas nous, c'est lui. Tout vient de lui. Mais on va briller de sa personne. Et c'est comme ça qu'on va être un témoignage pour ceux qu'on aime, pour nos frères, pour nos sœurs, pour notre famille, pour nos amis, pour notre ville. Relève-toi et le Christ luira sur toi. On va s'incliner dans la prière.